On va maintenant parler de qualité. Une chose sûre et certaine. Maintenant qu'on se connaît un peu plus, au plus je partage du temps avec vous, au plus je vois que vous avez certaines qualités. On n'ira pas la suite. Mais vous avez, on va s'arrêter ce matin que sur les qualités. Hein. Certes, il peut y avoir des choses à rectifier, et il y en a, c'est vrai. Mais nous voulons nous focaliser ce matin sur les qualités. Les qualités que Dieu s'attend à ce que nous puissions exprimer chacun d'entre nous. Ces qualités, elles sont, c'est une base, hein, c'est la base pour nous tous. Et la qualité, qu'est-ce que la qualité? C'est un trait de caractère d'une personne qui correspond à une valeur morale. Et dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples qui nous montrent, qui nous enseignent qu'il nous faut avoir certaines qualités qui sont non négociables, si on veut voir la gloire de Dieu, quelque chose de normal dans nos vies. On va voir quelques exemples au travers notamment de personnages, de la parole, qui vont nous parler ce matin. La plupart, vous connaissez hein, les traits de caractère, donc les qualités qu'ils ont, et on veut s'en inspirer. Mais en toute chose, ce que nous voulons, c'est regarder au Seigneur et nous focaliser sur notre Seigneur qui, lui, nous enseigne toutes ces choses. Alléluia. Amen. Voilà, la première personne, si je vous parle par exemple d'Abraham. Abraham, d'après vous, quelle est sa qualité? La foi. C'est la foi. Évidemment, et cette qualité de foi, on la retrouve, c'est à un moment donné, donc, dans l'épître de Paul aux Galates qui va retracer un peu ces choses-là. Et on va lire justement ce passage dans Galates chapitre 3, versets 6 à 9. Galates 3, verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Alléluia. Alors la première des qualités des croyants que le Seigneur s'attend à ce que nous puissions exprimer, c'est la foi. C'est la base en fait. Hein, et ça commence toujours, tout commence par le fait de croire. Alors croire, c'est une bonne chose, c'est un bon départ. Mais c'est simplement qu'un départ. Hein, parce que la Bible nous dit également, il y a un verset qui dit que les démons croient et ils tremblent. Mais nous voulons croire et encore aller plus loin avec le Seigneur. Mais évidemment que tout commence par le fait de croire. Si quelqu'un, ce matin, ne croit pas que Dieu existe, on pourrait passer le reste de la journée, peut-être même demain, après-demain, pour que la plupart d'entre nous puissions vous raconter comment le Seigneur a agi dans nos vies et comment le Seigneur Dieu est réel. D'ailleurs, quand on ne croit pas en Dieu. Un jour, quelqu'un disait, il faut beaucoup de foi pour être athée. Quand on voit la perfection de la création, Dieu crée, et c'est extraordinaire, Dieu nous a créés nous-mêmes aujourd'hui, et béni soit Dieu qui donne l'intelligence, parce que nous l'oublions jamais, hein, ces scientifiques, ces savants, donc une intelligence pour essayer d'inventer certaines choses qui vont améliorer notre quotidien, et notamment dans le domaine de la médecine, on s'aperçoit que malgré l'intelligence de certaines personnes, une intelligence quand même assez élaborée, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas fait le tour encore, et ils ne comprennent pas comment certaines choses du corps humain fonctionnent. Et ça sous-entend que derrière ça, il y a un Dieu créateur et qui, lui, a la toute intelligence. Alors oui, tout commence par le fait de croire que Dieu existe. Aujourd'hui, si on imaginait que simplement, si Dieu n'existait pas, comment l'univers pourrait déjà tourner? C'est les planètes bien ajustées. Imaginons s'il y avait peut-être, je ne sais pas, un millième ou dix millièmes, cent millièmes, où on pouvait juste décaler les planètes. Ça serait la catastrophe complète. Mais derrière tout ça, il y a un Dieu créateur. Donc, il nous a créés. Amen. Et ce matin, j'aimerais vous dire à quelqu'un qui doute peut-être, que tu es une créature merveilleuse de Dieu. Alléluia pour les amen. C'est une réalité. On nous a souvent dit qu'on était des incapables, qu'on était bons à rien, mauvais à tout. Et puis le Seigneur, quand il vient, il se présente à nous, puis il vient pour nous valoriser. Parce qu'on aurait tendance à se dévaloriser justement. Donc ça prouve qu'on a de la valeur auprès du Seigneur. Alors tout commence par le fait de croire que Dieu est grand. Croire, c'est être persuadé de l'existence de Dieu. Être persuadé que tout ce qui est dans sa parole est vrai. C'est être persuadé que Dieu nous donne, c'est l'expression. Hein. Donc croire, c'est l'expression donner du crédit à ces choses-là. Donner du crédit. Placer sa confiance en quelqu'un qui est notre Dieu. Et quand on commence par la foi, alors le résultat qui va venir assez rapidement, et on l'a lu au travers de Galates chapitre 3, le résultat, c'est que cela a été imputé à justice par rapport à Abraham. Et quand on commence à croire, le Seigneur nous impute. Imputer, c'est un terme employé en comptabilité. C'est mettre au compte, c'est créditer au compte de quelqu'un. Nous n'avions rien. Nous étions pauvres, spirituellement. Hein. Puis le Seigneur est venu et il nous a enrichis de toutes ses grâces, de toutes ses bénédictions. Et encore une fois, on pourrait le raconter, on pourrait le dire combien le Seigneur est bon et il est fidèle. On ne le suit pas pour ça, on le suit pour autre chose, parce qu'un jour, il y a eu cette révélation divine. La première des révélations, le premier message, c'est que le Seigneur nous a dit que nous étions des pécheurs. Et que, donc, en tant que pécheurs, nous étions privés de la gloire de Dieu. Et ensuite, c'est enchaîné en disant, mais le Seigneur a envoyé Jésus-Christ payer à la croix du calvaire, et donc c'est le passage que je lisais tout à l'heure, et un ministère de réconciliation, nous sommes réconciliés avec Dieu. Ça c'est un privilège qui est extraordinaire, les frères et sœurs, ce matin. Être réconcilié avec Dieu. On peut s'approcher dans la présence du Seigneur, autant de fois que l'on veut, et on veut s'approcher de lui. Donc imputer, c'est donc employer, donc pour mettre au compte de quelqu'un, c'est créditer. Mais imputer à quoi? À justice. Et encore une fois, donc Jésus a le ministère de la justification, quelque chose qui nous dépasse. Si un jour quelqu'un, ou l'un d'entre vous, voudrait qu'on puisse expliquer la justification avec nos propres mots, c'est difficile. Alors on peut essayer de l'expliquer, hein, on l'explique, mais la justification, comment ça marche? Comment le Seigneur procède? Ben en tout cas, le Seigneur, donc quand il nous voit, quand on accepte Jésus-Christ qui toujours se propose à nous, c'est pour ça qu'il y a toujours des temps favorables où l'Esprit agit dans les cœurs avec cette question qui va venir, veux-tu me donner ta vie? Veux-tu me donner ton cœur? Et quand on le fait, la Bible nous dit qu'à partir de ce moment-là, nous devenons enfants de Dieu. Et comme nous devenons enfant de Dieu, alors la justice de Christ, celui qui est justice, celui qui est parfait, tous ceux qui croient en lui deviennent justes. Ça, c'est extraordinaire. Alors, je vous le disais, hein, l'expliquer comme ça de façon théorique, de façon, on explique les choses, on peut le faire, on peut donner des cours hein, au niveau de la théologie, mais c'est surtout quelque chose à vivre. Et de se dire, mais moi, un être aussi perfectible, avec le péché qui m'enveloppe si facilement, étant donné que je me tourne vers le Seigneur, je suis juste devant Dieu. D'ailleurs, s'il n'y avait pas ce ministère de la justice, personne ne pourrait se présenter devant Dieu. Parce que Dieu ne peut pas tolérer le péché. Et nous, on pourrait s'en accommoder hein, facilement. Mais Dieu est intransigeant. Quand il y a le péché, il ne peut pas y avoir la présence de Dieu. Ça, c'est quelque chose de concret. Et le Seigneur, il nous a considérés comme sans péché. La dette est effacée et désormais nous avons cette liberté, je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir nous approcher dans sa présence. Imputé à justice, merci Seigneur. Les conséquences importantes de la foi, c'est également une filiation qui est encore valable. Par le fait de croire, de faire confiance au Seigneur et de lui appartenir, la Bible nous dit qu'il fait de nous, donc, ses enfants, nous qui sommes les païens. Vous êtes au courant qu'on était les païens? Donc on était privés de la gloire de Dieu. D'abord Jésus, il va le dire, hein, qu'il est venu d'abord pour le peuple d'Israël. Et alors, il ne faut pas dire que nous sommes le plan B. Mais on ne peut pas dire non plus que nous sommes la 13e tribu d'Israël, comme certains le pensent. Que Dieu a fait un remplacement, ou qu'il y ait une équivalence. Mais en tout cas, le Seigneur, dans son plan, dans son intelligence et dans sa grâce, il avait prévu de nous sauver. Et pour cela, il va intervenir dans la vie d'un homme qui, lui, va poursuivre. Il faisait du mal, il tuait. La nouvelle secte qu'il disait, hein, la nouvelle secte, il les poursuivait, il allait de lieu en lieu, il demandait des autorisations pour lapider, tuer ces chrétiens. Et puis dans toute sa grâce, cet homme, il a été arrêté comme nous avons été arrêtés un jour. Il a été arrêté sur ce chemin de Damas et là, il a eu cette révélation. Et à partir de là, le Seigneur lui a donné une mission d'aller annoncer l'évangile. Et gloire à Dieu que l'évangile, il s'est répandu et il continue de se répandre. Si vous pensez que le Seigneur est dépassé, que ces choses, c'était pour une certaine période et que maintenant, c'est terminé, ce n'est pas la réalité. Quand on voit les hommes que Dieu envoie dans plusieurs terrains d'évangélisation, plusieurs pays fermés, où le Seigneur continue de sauver, alléluia. Ça, c'est merveilleux de savoir que s'il y a vraiment un pays qui est fermé, dites-moi, la Corée du Nord. C'est vraiment un pays fermé. Vous savez qu'ils sont plus nombreux que nous, hein, comme chrétiens en France. Ils sont plus nombreux. Encore une fois, peut-être il y aurait quelque chose à réfléchir. Quand il y a la tribulation, quand il y a l'épreuve, le peuple se réunit. Alors évidemment, ils ne peuvent pas se réunir comme nous, hein. C'est pour ça que nous avons, nous, ce privilège. Mais ils le font différemment. Et le Seigneur sauve. Et depuis plus de 2000 ans, par le sacrifice de Jésus, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, il fait de nous ses enfants. Et cette filiation, elle est encore valable pour tous ceux qui ont la même qualité de foi. Et j'aimerais insister là-dessus, la même qualité de foi qu'Abraham. Parce que aujourd'hui, si vous dites à quelqu'un, s'il croit en Dieu, il n'y aura pas de problème. Tout le monde croit en Dieu, ou en quelque chose d'abstrait. Mais c'est cette filiation et cette qualité de foi. Nous, quand on lit certains passages, on se dit, Abraham, c'est le père de la foi, il a voulu nous montrer un exemple, et puis voilà, ça s'arrête là. N'oubliez surtout pas qu'Abraham, il a fallu qu'il fasse un choix radical. Parole de Dieu, quitte ton pays. Quitte ta patrie, quitte la sphère où tu es bien, où tu travailles, quitte l'endroit où tu es, parce que j'ai un plan qui est meilleur pour toi. Alors dit comme ça, c'est sûr, hein, il a dû partir avec enthousiasme, mais après il fallait convaincre, hein. Il fallait convaincre sa femme, son épouse, il fallait convaincre tout le monde de pouvoir partir. Il fallait que cette parole soit ancrée dans le cœur, et c'est ça la foi. Sans voir ces choses-là, seulement la promesse du Seigneur. Alors évidemment, hein, que toute sa vie, il y a eu des péripéties. Et ça nous montre que Abraham était un homme comme nous, avec ses faiblesses. Il faut savoir qu'à un moment donné, cet homme, donc, il y a eu cette révélation, le père de la foi, il est appelé le père de la foi quand même. Puis à un moment donné, il s'est égaré. Et dans son égarement, il a commencé à mentir. Commencer à s'éloigner du Seigneur. Et le Seigneur, dans toute sa grâce, il va l'interpeller de façon à le percuter, à le bouger. Il va revenir. On pourrait se dire, mais là, c'est terminé. Il va recommencer une seconde fois. Si vous le lisez dans le livre de la Genèse, il va recommencer. Et ça nous montre quoi? Que le cœur de l'homme, malgré l'amour de Dieu, malgré tout ce que le Seigneur fait, malgré tout ce que le Seigneur donc apporte dans les vies et dans les cœurs, à un moment donné, si cela n'est pas entretenu dans la présence de notre Seigneur, ça peut s'éloigner. Aujourd'hui, on connaît sûrement, pour la plupart, des hommes et des femmes qui ont fait de belles confessions de foi, qui ont fait une belle expérience de salut, et qui aujourd'hui, si vous leur parlez de Dieu, ils ne veulent même pas en entendre parler. Comment on peut arriver à cet état de cœur? Surtout que ce matin, il n'y ait personne au milieu de nous qui se dise « Ah mais moi, ça ne m'arrivera jamais !» La Bible nous dit « Toi qui es debout, prends garde de ne pas tomber. » Et derrière ça, on voit l'avertissement et la grâce de notre Seigneur. Amen. Donc, la même qualité de foi, tout était prévu d'avance. Au verset 8, la justification également pour les païens, l'amour universel de Dieu. C'est ça, cet amour universel. Et ça, c'est extraordinaire quand on vient au Seigneur. Qu'on soit de n'importe quelle nationalité, d'ailleurs ça se voit. J'ai un panel ici extraordinaire. Qu'on soit homme, femme, riche, pauvre, le salut est pour tous. Ça c'est merveilleux, extraordinaire. Donc la justification, elle est également pour les païens, l'amour universel de Dieu. Et le Seigneur, comme pour le rappeler au verset 9, il va dire « De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. » Ce qui sous-entend que c'est exactement pareil pour chacun d'entre nous. Et nous devons avoir encore cette foi, cette confiance totale dans notre Seigneur, parce que la foi, c'est ce qui va nous faire vivre. Vous n'en êtes pas certain, on va lire Habacuc, la fin d'Habacuc. Alors là, c'est sûr que pour tous ceux qui ont une Bible, c'est un exercice difficile. C'est juste les pages qui sont le plus collées. Parce qu'en général, on n'y va pas trop dans les petits prophètes. Habacuc, chapitre 2, verset 4. Souvent, on aurait tendance à dire, le juste vivra par la foi. Regardez la première fois où c'est dit dans la parole. Mais le juste vivra par sa foi. Un petit détail d'une grande importance. Ce qui sous-entend que cette foi, quand elle est alimentée, va donc procurer cette force, la même qualité de foi qu'Abraham. Alors s'il y a une qualité à avoir, c'est la foi. Malgré les temps, malgré les circonstances, je sais, je m'appuie sur mon Seigneur, je sais qu'il va m'amener jusqu'à bon port. Alléluia, que Dieu soit béni. Que dans cette église, il y ait des hommes, des femmes de foi. Il y aura, ok, il y a ces choses qui sont là, ces choses, elles arrivent, c'est sûr. Épreuve, la difficulté. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier sur la terre. Ça, c'est les paroles de foi. Je sais que mon Seigneur est capable. Et si le Seigneur, pendant que j'intercède, parce que le Seigneur ne nous doit rien, vous êtes au courant, mais il le fait quand même. Pendant qu'on intercède, et si on voit le contraire, on veut rester dans une attitude de foi comme Abraham. Cette qualité, elle est vraiment fondamentale. Ensuite, un second exemple concernant la qualité. Si je vous parle de Moïse, qu'est-ce qui vous vient en premier comme qualité? La patience. Il y a quelqu'un qui a de la patience comme ça naturellement? Si quelqu'un a de la patience naturellement, on aimerait s'en inspirer ce matin. Parce que, en tout cas, moi, je suis un grand impatient. Et puis, avec le temps, dans la marche, avec le Seigneur, et jour après jour, le Seigneur nous enseigne la patience. Pourquoi? Parce que la patience, ça fait partie d'un quartier du fruit de l'esprit. Quand il y a le fruit de l'esprit dans la vie de quelqu'un, forcément, le Seigneur va travailler notre patience. Si quelqu'un est impatient ce matin, ne vous attendez pas que vous allez vous lever un matin et ça y est, vous allez être patient. Il va y avoir des circonstances pour pouvoir l'exprimer. Alors certes, on n'y arrive pas au premier coup. Regardez par exemple le passage de Nombre, chapitre 12, verset 3. Et l'Éternel l'a entendu. Or, Moïse était un homme fort patient. Alors déjà, c'est pas mal. Fort patient. Puis, comme pour appuyer les propos, plus qu'aucun homme sur la face de la terre.
Waouh !
Alors là, c'est peut-être un verset qui va peut-être nous décourager quelque part. Dire, mais alors, voilà, il a eu la première place, c'est lui qui est qualifié d'homme le plus patient. Mais quand même, quand on lit la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'il est devenu patient. Parce que si on demande à l'Égyptien s'il a été patient, à un moment donné, vous le lisez dans la Bible, il entend parler, il a peur d'être découvert, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'Égyptien, il le tue, il l'enterre dans le sable. Pour quelqu'un qui est patient. Cela nous montre que cette patience, évidemment, elle s'acquiert au fur et à mesure, et le Seigneur va favoriser des fois des contextes pour justement que cette patience, elle se développe comme le fruit. Le contexte de ces paroles, de ce verset, le contexte, vous savez, quand est-ce qu'il a été donc appelé l'homme le plus patient que la terre ait pu porter, c'est quand il a été murmuré, quand on commence à nous murmurer, c'est une sensation vraiment désagréable. Il y a quelques jours, je discutais avec un cousin à moi, il me disait, Alex, le Seigneur est extraordinaire. Il fait des choses merveilleuses, il bouleverse nos vies. Évidemment, on se connaît très bien, donc on a le même sang, assez vif. Il me disait, un jour, il n'y a pas si longtemps, quelqu'un me critiquait, je l'entendais me critiquer, j'étais juste à côté. J'ai rien dit, et dans mon cœur, non seulement j'ai rien dit, mais dans mon cœur, je suis parti, j'ai dit, Seigneur, bénis-le. Si ça, c'est pas surnaturel, parce que c'est pas, on va dire, humain, hein. Quelque chose de surnaturel, on nous critique, ça vient nous percuter, ça vient toucher notre cœur, hein, parce que la critique, quand elle est là, quand il y a du murmure, c'est terrible. Et non seulement on commence à murmurer contre lui, par sa propre famille, sa sœur et son frère le critiquent parce qu'il a pris une femme éthiopienne, je crois. Alors ça a dû remuer son cœur quand même, hein, au niveau du contexte. Mais quand même, il a été patient. Alors, je ne sais pas après comment ça s'est passé, la Bible ne le dit pas, mais ce passage met en lumière l'humilité de Moïse, la manière dont il se positionne face aux conflits et aux accusations. Il y a des versets qu'on aime bien citer, hein, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique ». Ça, on aime bien, hein. Le réciter, l'appliquer dans nos vies, c'est extraordinaire. Le Seigneur nous dit, lorsqu'on dira du mal de vous, ne paniquez pas, mais glorifiez le Seigneur. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Je peux vous dire que c'est possible. L'ayant expérimenté, sûrement que pour la plupart vous l'avez expérimenté aussi, ou faire part de ce qui s'est passé. Donc, quand on vit l'injustice, c'est quelque chose de terrible. Quand on est innocent, il nous semblerait, hein, innocent de tout, par rapport à une situation, et qu'on vient nous murmurer, et quand ça vient à nos oreilles, dire « Un tel a tenu des propos comme ceci, comme cela, te concernant. » Ah, ça touche le cœur. Puis je me souviens, donc, dans mon impatience, j'avais qu'une seule envie, c'est d'aller voir le frère, un peu comme... Moïse, d'aller voir le frère et de lui dire les quatre vérités. Mais ça, c'était la chair. Puis le Saint-Esprit, dans mon cœur, qui me disait, tu dis rien, c'est bon pour toi. Je ne comprenais pas, je vous promets, je ne comprenais pas. Comment ça peut être bon pour moi? Jusqu'à ce qu'il y ait un déclic en moi. Encore une fois, c'est surnaturel, c'est le Seigneur qui travaille nos cœurs, hein. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, j'ai obéi. Et des fois, on obéit sans comprendre. Seigneur, j'obéis. Et le Seigneur a appuyé dessus en disant, et surtout, quand tu le vois, tu le salues et tu lui en tiens pas rigueur. Waouh, c'est difficile, hein? C'est difficile, mais c'est possible. Quand on cherche les intérêts de Dieu. Et donc, c'est à travers ça que le Seigneur forme, forme nos cœurs face à des situations qui sont souvent injustes et on n'aurait qu'une seule envie, c'est de pouvoir crier et dire « mais je suis innocent » ou « se défendre ». Le Seigneur, il nous dit « quand ces choses vont arriver, fermez vos bouches ». Et là, il y a un rapport avec la maîtrise de soi, la maîtrise des sentiments. Un jour, je vous avais dit, si on inventait la machine qui transférerait nos pensées sur l'écran, ça serait terrible. On passerait la plupart du temps à se mettre à genoux. Pardon, Seigneur, les pensées qui sont là, les premières pensées, elles ne sont pas forcément bonnes. Souvent, je le dis, quand je suis en entretien, que le Seigneur il travaille nos cœurs, je vous promets que quand quelqu'un me fait une queue de poisson en voiture, mon premier sentiment, c'est pas « bénis-le, Seigneur, alléluia, gloire ». Mais on se ressaisit, se dit mais non, parce que la chair est là, c'est ça. Et c'est ça, en fait, le combat. Que Dieu nous donne d'être patients. Surtout, quand on est dans une communauté chrétienne, quand nous formons l'Église. Je disais il n'y a pas si longtemps, des fois, il y a des choses que le Seigneur nous a fait comprendre. Juste, je vous donne, je mets des exemples de temps pour qu'on puisse comprendre. Le Seigneur, il nous donne de pouvoir comprendre un principe de la parole de Dieu, un principe biblique. Et nous, personnellement, on a peut-être mis 6 mois à le comprendre, parce qu'on ne comprenait pas à un moment donné. Et le Seigneur, il revient. Et c'est à cela que sert le Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement nous faire trembler. Et nous, dans notre intransigeance, dans notre impatience, on veut que le frère et la sœur le comprennent en 6 heures, et des fois, en 6 minutes. On n'est pas comme ça ou je suis le seul? Si je suis le seul, je vais m'humilier dans la présence du Seigneur. Et oui, il y a cette forme d'impatience que le Seigneur... Alors, rien à voir avec la tolérance de je ne sais pas quoi. La patience. Quand quelqu'un naît de nouveau, il faut s'en occuper, il faut être là. Les mamans, dites-moi, quand les bébés sont là, il faut de la patience. Vous êtes d'accord? Eh oui, Et c'est exactement pareil. Que le Seigneur nous aide à nous supporter les uns et les autres. Alors se supporter, je le dis pour que ce soit bien marqué, ce n'est pas faire tout et n'importe quoi. Des fois, il faut se lever et reprendre certaines situations, et toujours avec douceur. Parce que des fois, on va reprendre certaines personnes, mais c'est on coupe. Vous savez que quand on coupe, ça fait mal. Par contre, j'ai appris quelque chose. Avec le bon ton, animé par l'amour de Christ, on peut tout dire. On peut dire des vérités à certaines personnes. Tu sais, ceci, cela. Mais il faut que l'autre perçoive l'amour et la douceur derrière. Si on vient simplement parce qu'à un moment donné, il y a un ras-le-bol, en général, quand c'est comme ça, on fait du dégât. Et souvent, dans l'éducation des enfants, vous l'avez remarqué, on supporte, et puis quand il y en a marre, bim, ça part. Mais ça, ce n'est pas l'éducation, ça. Parce que la fessée, elle est là, parce que moi, j'en ai marre, c'est ça, en fait. C'est parce que j'ai atteint un seuil. C'est au fur et à mesure, ça ne veut pas dire que de temps en temps... Alors là, ce que je vais dire, c'est passible. Aujourd'hui, la fessée... Puis on en voit les résultats derrière aujourd'hui, avec toute une génération irrespectueuse à souhait. Alors je ne dis pas qu'il faut le faire, vous comprenez bien, évidemment. Des fois, en tant que grand-parent, vous savez, des fois, le conflit des générations, quand ce n'est pas nos enfants, donc les petits-enfants, quand il y a les belles filles qui sont là, qui tolèrent certaines choses, je me dis « waouh ». Si ça avait été moi, à une certaine période, même pas j'aurais levé. Alors, on ne peut pas dire qu'avant c'était mieux, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais il y avait quand même, à un moment donné, il y avait une limite à ne pas dépasser. Aujourd'hui, on tolère certaines choses. Alors, c'était pas. J'avais pas prévu de le dire, mais le Seigneur, il conduit. Que le Seigneur nous donne d'être des hommes et des femmes patients envers les autres, plutôt de ceux qui encouragent. Mais tout ça dans l'équilibre. Au lieu de se défendre, il laisse place à Dieu et il laisse sa colère. Parce que sûrement, hein, dans un premier temps, Moïse dit avoir cette colère. Quoi ? Ma sœur ? N'oublions pas que c'est la même qui suivait de loin quand il a mis dans ce panier. Puis plus tard, commence à le critiquer. Ça fait mal. Mais lui, il a pris la décision qu'au lieu de se défendre, il laisse la place à Dieu. Et ça, c'est la meilleure des positions. Des fois, au lieu de se défendre, laissez Dieu agir. Laissez Dieu faire. Alléluia. Donc, on a vu la foi, on a vu la patience. Certains ont répondu. Hein. Donc, quand je dis Abraham, quelle est sa qualité ? La foi. Moïse, vous l'avez dit, hein, là vous étiez un peu plus nombreux. La patience. Si je vous dis Néhémie. Alors, bien sûr, hein, bien sûr, tout ça est juste. Mais en fait, Néhémie, quand on pense à lui, hein, on pense à patriotisme. Il est loin de son pays. Et puis, il entend qu'à un moment donné, on va le lire, hein, Néhémie 1, verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, ces mauvaises nouvelles concernant donc le pays, je m'assis et je pleurai. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. On voit ici que la qualité de Néhémie, c'est qu'il entend donc des mauvaises nouvelles concernant le pays. On voit un attachement à sa patrie. Il reçoit des mauvaises nouvelles. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il est dans une position assise. Normalement, la position assise, c'est une position pour réfléchir. Se reposer aussi, mais pour réfléchir. Et vous savez ce qui va se passer dans son cœur quand il réfléchit? Il pense à cela, alors il va commencer à pleurer. Il pleure, et quand on pleure, en fait, on répand notre cœur. Et il répand son cœur. Et il répand son cœur devant le Seigneur. Et puis, il met des choses en pratique. Il va jeûner, il va prier. Je remarque ici, au travers du jeûne et de la prière, que ça n'a rien à voir avec lui. Ce n'est pas son besoin à lui. C'est par rapport au peuple. Je dis ça, pourquoi c'est la parenthèse. Souvent, on traverse des moments difficiles, on va jeûner, on va chercher la face de Dieu, et il faut le faire, évidemment. Mais des fois, on le fait pour des mauvaises motivations. Parce qu'il y a ce sentiment, cette position où, même si on ne le dit pas, on le vit comme ça. C'est-à-dire, Seigneur, j'ai jeûné, j'ai prié, maintenant, tu dois m'exaucer. Alors, ça nous fait sourire, hein, mais c'est vrai qu'on peut avoir cette attitude. Alors, il jeûne, il prie. Puis on pourrait se poser la question, quel est le véritable jeûne auquel le Seigneur prend plaisir. Cette semaine, si vous avez un peu de temps, lisez Ésaïe 58, où Ésaïe a une révélation, un message de la part du Seigneur sur le jeûne que le Seigneur prend plaisir. Et vous allez voir que ça n'a pas trop à voir avec nous, nos problèmes, nos tracas, parce que ces choses-là, on le fait régulièrement. Je dis ça et je parle de Néhémie, du patriotisme, afin que nous puissions lever très haut l'étendard de la croix. À l'époque, quand il y avait les tribus, on l'a vu samedi dernier, pour ceux qui étaient là, il y a eu une rencontre interjeunesse à Colomiers, où Dieu est un Dieu d'ordre. Et chaque tribu était rangée, pas n'importe où, avec un certain ordre, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et chaque tribu avait sa bannière. Et nous, le peuple de la Nouvelle Alliance, notre bannière, c'est la croix de Christ. Pas la croix comme un symbole autour du cou, mais la croix, celle qui a bouleversé notre cœur. L'action de Christ sur cette croix, qui a donné sa vie pour chacun et chacune d'entre nous. Ce patriotisme a besoin, pourquoi ? Pour que les gens, tous ceux qui sont dans les ténèbres, puissent voir la lumière qu'il y a dans nos cœurs. Nous étions de leur nombre, nous étions dans les ténèbres, nous. Puis un jour, le Seigneur est venu nous éclairer. Alors qu'il y ait ce patriotisme, s'il y a... Alors, dans d'autres domaines, on ne doit surtout pas regarder dans cette direction, mais s'il y a un pays qui était très patriotique, c'est les USA. Eh oui, hein, les drapeaux partout, ils affichent les couleurs. Et en fait, c'est exactement pareil pour nous. Des fois, on aurait tendance à ne pas dire où on va le dimanche matin à nos collègues de travail, de peur d'être moqué, de peur d'être persécuté. Alors évidemment, il faut le faire dans la sagesse, c'est délicat, hein, je le conçois. Et quelqu'un rempli du Saint-Esprit, on peut témoigner, évidemment, différemment aussi. Hein. On peut témoigner par notre comportement. Et des fois, se dire, Seigneur, les personnes que je côtoie, avec qui je passe beaucoup, beaucoup de temps, Seigneur, j'aimerais que tu puisses les sauver. J'aimerais que tu puisses créer une situation pour que je puisse leur parler de toi. Ce patriotisme, il va le défendre tout au long de sa vie, de son ministère. Il prie. C'est la réaction de Néhémie. Il prie. Et il recherche la face du Seigneur. Et quand il prie, il sait à qui il s'adresse parce qu'il dit, Seigneur, toi qui es grand, qui es redoutable. En fait, il est en train de dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai foi en toi. Je sais que tu peux agir dans cette situation. Donc, il prie. Et je crois que, frères et sœurs, chacun d'entre nous, nous devons prier pour élever les couleurs. Alors, je le dis comme ça, hein, du christianisme, mais de Jésus-Christ, en fait. Et pour cela, on doit laisser de côté, peut-être, pour un temps, nos soucis, nos tracas. Parce que la Bible nous dit, quand on se préoccupe des affaires de notre Seigneur, en même temps, il s'occupe des nôtres. Ça, c'est une réaction à avoir. Et alors, non seulement il jeûne, il prie, et il ne lâche pas. On a tous connu des moments où on se dit, un moment de ferveur, à partir de maintenant, les choses vont changer. Puis on manque de persévérance, manque de consistance, et donc on se relâche. Lui, il se relâche pas, et il continue, parce qu'il a compris que c'était un combat. Alors, il va se manifester par la volonté de Dieu. Donc, l'attachement à sa patrie qui se manifeste par la volonté de défendre les couleurs du Seigneur, ce que je disais tout à l'heure, nous devons être prêts à défendre nos couleurs. Nous devons mener le combat de la foi. C'est ce qu'on va dire à l'apôtre Paul au jeune Timothée, 1 Timothée 6,12. Il lui dit, combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Ici, il y a deux choses à faire, combattre. Regardez ce petit mot, ici, qui ressemble à trois lettres, un mot. Le bon combat, ce qui sous-entend que des fois, nous pouvons mener un mauvais combat. On se trompe de combat. Il y a un bon combat. Quand on parle de patriotisme, on parle de bon combat. Et c'est ce qu'il lui dit ici. Combat, le bon combat de la foi. Saisis. Ici, la parole, il dit, je vais te faire saisir. C'est notre responsabilité, c'est ta responsabilité de saisir la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Alors oui, ce patriotisme, c'est l'attachement à sa patrie qui se manifeste par la volonté de la défendre, mais également de la promouvoir. Promouvoir ce patriotisme, synonyme de promouvoir, c'est améliorer. C'est excellent hein, quand on va dans le sens profond de certains mots. Promouvoir, c'est améliorer. Vous ne trouvez pas que notre nation a besoin d'être améliorée, même transformée hein. Synonyme de promouvoir, bombarder. Bombarder, vous savez ce que ça veut dire, hein, pas besoin de... Catapulter. Lancer ces messages comme des flèches. Favoriser. Impulser. En fait, dans tout ça, on voit qu'on est en mouvement. C'est ça le patriotisme. Nous sommes des témoignages vivants. Moi, je suis émerveillé. On va arrêter là. Je suis émerveillé de savoir comment le Seigneur agit dans les vies. Ce matin, nous nous sommes rappelés, normalement, ce qu'étaient nos vies avant de connaître le Seigneur. Nous étions perdus. Il n'y a pas d'espérance en nous. Je ne sais pas vous, mais ça crée chez moi une frustration, un vide dans mon cœur que rien ne pouvait combler. Et puis Jésus est venu. Puis il a comblé ma vie et mon cœur. La façon égoïste, ça serait de le garder pour nous. Et que nous puissions le témoigner. Avoir au moins ce fardeau. Je sais que certains vous l'avez, hein, ce fardeau. Avoir ce fardeau dans les cœurs, quand on se lève chaque matin, Seigneur, dans l'humilité, la simplicité. Aujourd'hui, on a chanté tout à l'heure, un jour de joie, un jour de victoire. Conduis-moi vers quelqu'un qui te cherche. Conduis-moi vers une personne à qui témoigner. Parce que vous savez que notre temps, on devra en rendre compte. Souvent, certains me disent, mais j'ai pas le temps. C'est possible. Hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas une inversion au niveau des priorités? Est-ce que nous ne devrions pas peut-être remettre les choses dans l'alignement de notre Seigneur? Ces qualités que nous avons vues, hein, on en a vu trois, ces qualités, le Seigneur veut les retrouver dans notre cœur, dans notre vie. Des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes de patience, et des hommes et des femmes de patriotes qui font partie d'un corps. Et on sait que celui qui était à la tête, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions poursuivre vraiment ces qualités. Dire, Seigneur, si je ne les ai pas, je veux les avoir. Et s'il y a certaines qualités que j'ai, je veux surtout les garder, les préserver et les développer. Alléluia. Pour que je sois cette lumière dans l'Église, afin que nous soyons de ceux et de celles qui vont de l'avant et qui gagnent pour le royaume de Christ. Alléluia. Amen.